Le texte biblique choisi aujourd'hui sera particulièrement court, puisque j'ai choisi le verset que nous avons travaillé ensemble à la dernière séance de Théophile, ici même, dans nos locaux, cette semaine, mardi soir, sur la question de la règle d'or. Et donc, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, le verset 12, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Je vous invite à chanter ensemble le psaume 23, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à la prière avant de pouvoir méditer ce verset que nous avons entendu. Et nous prierons ce matin avec un philosophe qui a été prédicateur ici même à l'Oratoire du Louvre, dans une autre confession que la nôtre, mais qui avait le même souci de la justesse de sa pensée. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qu'ils excitent en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien. Viens à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse, parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être dans votre bonheur. Donnez-moi donc dans l'oraison l'avant-goût des vrais biens afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Nicolas Malebranche. La semaine passée, ici même, c'est avec la parabole du bon samaritain que nous évoquions, grâce à la réflexion de notre invité Jacques Mérienne, l'amour du prochain. Aujourd'hui, c'est la règle d'or que j'aimerais méditer avec vous dans sa version biblique. Dans la culture générale, nous avons en tête une règle d'or qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Cet interdit semble aller de soi et on ne voit pas comment il serait possible de ne pas être d'accord avec cela. Pourtant, la chose est plus difficile qu'il n'y paraît. L'effet de miroir d'une telle règle présuppose qu'autrui ne veut pas les mêmes choses que celles que nous ne voulons pas. Il n'a pas forcément les mêmes aspirations et n'a pas les mêmes défenses à l'égard des mêmes choses. Mais comment savoir si autrui est d'accord avec moi sur les choses qu'il n'aimerait pas subir? Comment véritablement le mesurer? Une telle formulation nous emmène dans l'écueil d'une universalité du bien et du mal, dont tous les débats éthiques montrent aujourd'hui qu'il n'est jamais simple, à moins de procéder au cas par cas, de savoir ce qu'autrui refuserait ou non. L'universalité semble contradictoire avec toute notion éthique. En fin de vie, par exemple, je n'aimerais pas qu'on débranche la machine qui me tient lieu de moyen de respirer. Mais c'est mon avis à moi. Que feront ceux qui s'occuperont de moi alors? Un autre vous dira qu'il préférerait qu'on ne le réanime pas du tout. Mais il dit ça alors qu'il est en bonne santé. Un autre, enfin, vous dira qu'il demandera le suicide assisté avant d'en arriver là. Mais là encore, tout cela n'est que projection. La vérité est qu'aucun des trois ne sait comment les circonstances se présenteront au moment de la fin de sa vie et qu'une question éthique de ce type ne se règle déjà pas si facilement individuellement, alors universellement imaginée. Les volontés anticipées en la matière font frémir quiconque y pense avec un peu de profondeur et de sérieux. Comment projeter une volonté aussi dépendante de circonstances aussi aléatoires? Qui sait quel sort lui est vraiment réservé? Et ne fait-on pas peser sur autrui un poids impossible à porter quand on lui demande de se déterminer sur des questions aussi difficiles à envisager? Quel est le bien de l'autre? Qu'en savons-nous? Quelles règles respecter quand il s'agit du bien de l'autre? L'exemple choisi est extrême, sans doute c'est un cas que nous qualifierions de limite, mais il montre qu'autrui n'est pas une simple construction résultant de critères de choix simples ou de conjectures faciles. Autrui est vivant et son existence est mouvante. Et ce qu'il pense aujourd'hui ne sera pas forcément ce qu'il pensera demain. Je ne peux lui demander de se prononcer sur le traitement qu'il souhaiterait pour lui-même simplement. Alors comment faire, comment savoir ce qu'il est bon ou mauvais de faire pour lui? Même à le considérer comme sujet pensant et responsable, je risque fort de me tromper quand j'affirme ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Et la règle d'or alors devient un abîme. Je n'aimerais pas qu'on me fasse la charité devant témoin, mais suis-je au même degré d'indigence que celui ou celle dont j'imagine la honte qu'il ou elle éprouverait à être aidée et prise en charge au grand jour? Dans la parabole du bon samaritain, l'homme tombé au bord du chemin n'est-il pas en si mauvais état qu'il n'en est plus à se demander si quelqu'un va le voir se faire assister comme un pauvre hère? N'est-ce pas cette honte qui nous revient en miroir et qui fait que parfois nous n'allons pas vers celui qui se trouve dans une profonde misère et détresse? N'est-ce pas parce qu'autrui est l'image de l'humanité que nous ne voulons pas être, que nous ne voulons être à aucun prix? N'est-ce pas pour cela que nous détournons notre regard de lui pour ne pas mesurer ce que, dans la misère, nous pourrions devenir nous-mêmes? La version de la règle d'or qu'on trouve en Matthieu 7, 12, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux », est formulée comme un commandement et non pas une défense, et très loin donc de la formulation des lois de notre code civil. En changeant de syntaxe, la phrase a migré dans un autre registre que celui de l'autonomie et de la responsabilité individuelle. Ici, la première chose que cette règle affirme, c'est que je puis avoir besoin de l'autre, d'un autre, et vouloir qu'il fasse quelque chose pour moi. Je deviens tout à coup l'indigent possible. Et cet autre n'est pas un autrui quelconque. Il est un homme parmi les autres hommes, un humain, dit le texte grec, anthropos, au milieu des autres humains. Il s'agit ici non pas de parler de l'autre, d'autrui, mais de parler des humains, de l'homme, de l'humanité. Il s'agit ici de parler de ce qu'est un être humain et de garder en tête cette possibilité qu'un être humain ne se fasse pas tout seul, qu'il ne se détermine pas toujours tout seul et qu'il ne puisse pas réaliser tout tout seul. Il a parfois besoin des autres. Dans notre état de droit, la personne morale est une fiction certes bénéfique qui permet au droit de s'appliquer à une personne en particulier, à une institution en particulier. Il n'y a pas ainsi de confusion entre les responsabilités. C'est un gage de liberté et de responsabilité individuelle que les sociétés traditionnelles ne connaissaient pas par le passé, puisque dans ces sociétés traditionnelles, tout était toujours collectif et communautaire. Surtout quand le droit était un droit religieux. Souvenez-vous de l'aveugle de naissance dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, pour lequel on cherchait qui avait péché de ses parents ou de lui-même, pour qu'il soit frappé de la honte et de l'impureté qu'était alors la cécité. Cet homme n'avait aucune liberté ni aucun destin individuel, il restait enfermé dans une généalogie et dans le péché de ses parents, toujours possible à découvrir, dans une vision collective et communautaire de sa condition. Le droit moderne empêche cette confusion et chacun rend compte de ses actes pour lui-même, par lui-même ou par un représentant légal quand la dépendance ne lui permet plus de régler ses affaires lui-même. C'est l'honneur de chacun de pouvoir rendre compte pour soi-même de ses propres affaires, bien sûr. Mais regardons le contexte de la règle que Jésus énonce dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes ici dans un contexte où les droits s'affrontent. Les règles rituelles de pureté de la religion juive de l'époque de Jésus et le droit romain, lequel ne considère pas tous les hommes égaux en droit et en dignité, loin de là. Nous sommes dans un contexte aussi d'occupation, où les Judéens et plus tard tous les habitants non romains de la région administrative fondée par les empereurs romains et nommée Syrie n'ont pas les mêmes droits que leurs occupants, Parmi ceux qui ont suivi Jésus, les pauvres, comme on les appelle souvent dans l'Évangile, qui semble-t-il former une secte supplémentaire du peuple juif à côté des zélotes, des pharisiens, des sadducéens ou des esséniens. Certains subissent chez ces pauvres la double peine. Ils sont impurs du point de vue du droit religieux juif, à cause de leur handicap peut-être, de leur maladie, de leur condition sociale d'esclave ou d'immigré, et ils sont soumis au silence par le droit romain d'occupation. Jésus incite au don mutuel entre humains. C'est un terme qui indique très clairement comment transcender les interdits liés à la pureté, à l'origine ou à la condition sociale. Ce que vous voulez que les autres hommes fassent pour vous signifie que vous définissez l'humanité de l'autre en fonction de ce qu'il est capable de faire pour vous ou non aussi. Vous le considérez comme étant dans la même communauté que la vôtre. Mais nous en revenons à notre effet de miroir et de projection du début. Comment faire le bien d'un autre humain ? Jésus ne répond pas tout à fait à cette question. Il répond à la question : que faire pour lui si c'est un homme ? Et il demande donc : à quelles conditions l'autre est un humain ? Jusqu'où puis-je tolérer qu'on défigure cette humanité ? Il est question ici de dignité humaine. Bien sûr, dans un débat éthique, la dignité est une étape, mais ne suffit pas. Il faut sans doute aller plus loin pour considérer autrui comme un sujet qui décide librement de sa vie. Mais qu'en est-il lorsque la liberté pleine et entière n'est pas possible ? Quand l'autonomie et la responsabilité ne sont plus possibles ? N'est-ce pas la dignité humaine qui reste le dernier rempart contre l'inhumanité ? Quand Jésus dit « Ce que tu veux que les autres hommes fassent pour toi, fais-le aussi pour eux », il reconstruit une communauté humaine là où la misère, le droit inique, la servitude font leur œuvre d'atomisation de la société et rendre solitaire ceux qui ne peuvent plus compter sur personne, ceux qui ne sont plus le vis-à-vis d'aucun homme. Là où les circonstances isolent et désacralisent un être humain, Jésus commande à la manière d'un nouveau Moïse et d'une façon positive de recréer la communauté des humains. Aujourd'hui, bien sûr, nous ne sommes absolument pas dans notre pays, dans les mêmes conditions dans lesquelles les pauvres qui croyaient en Jésus et en son salut se trouvaient. Pourtant, combien d'êtres humains errent dans nos sociétés modernes en dehors de tout circuit de solidarité ? Sans doute en avez-vous vu beaucoup en venant ici, si vous êtes venu à pied pendant un petit moment. Combien sont là, gisant sur les trottoirs de la capitale, en guenilles, parfois à demi nus, malades, sans secours et sans vis-à-vis pour qu'on puisse leur prêter le temps d'un acte de compassion, l'humanité qui semble les avoir quittés. Combien de fois détournons-nous le regard de l'être humain que la Bible qualifie pourtant de notre propre chair ? La grandeur de nos règles d'autonomie a parfois quelque chose d'effrayant, en ce qu'elle présuppose que chaque être humain doit être armé pour faire face à tout ce qui le concerne dans sa vie et résoudre ses problèmes les uns après les autres comme un vaillant soldat. Nous savons toutes et tous que ce n'est pas si simple. Et peut-être les uns et les autres ici même ont connu ces moments où l'adversité est telle qu'il faut bien une main tendue quelque part. Il arrive que l'adversité ait raison des plus fragiles, sans qu'ils puissent avoir le ressort nécessaire pour résister et se remettre debout. Il ne s'agit pas ici de prôner la bienfaisance chrétienne qui a fait par le passé parfois autant de dégâts que de miracles, réduisant l'autre à quelqu'un qui n'était pas capable de penser par lui-même, a priori, en voulant le bien d'autrui à sa place. La bienfaisance a parfois réduit à la condition de mineurs et de pauvres stigmatisés par leur misère ceux qu'on voulait soi-disant aider. Heureusement, aujourd'hui, la volonté et le désir des principaux concernés par la précarité sont pris en compte dans leur parcours de vie par toutes les associations et toutes les organisations qui peuvent proposer une aide. Mais combien sont dans cet isolement qui fait que leur humanité même est remise en cause, qui fait que même l'association qui se déplace vers eux, ils ne la reconnaîtront pas comme un bienfait pour eux, qui fait que même la main tendue par un autre humain qui vient en maraude, ils ne voudront pas la saisir, tellement ils sont convaincus que ça ne sert pas à grand-chose. Car si l'animal social que nous sommes toutes et tous ne fait plus partie d'aucune société solidaire et ne s'en sent plus un membre, alors que devient-il ? La règle d'or de l'évangile de Matthieu ne relève pas du droit des sociétés traditionnelles. Elle ne relève pas des règles de pureté édictées par quelques codes rituels de pureté. Elle ne relève pas non plus de nos lois modernes qui considèrent chacun par principe autonome. La règle d'or que donne Jésus dans l'évangile de Matthieu relève de l'amour, de celui qui est à l'image de Dieu et dont le manque de solidarité défigure l'humanité. Il ne s'agit pas donc de faire ici le bien de l'autre avec son accord ou sans son accord. Il s'agit bien plus de venir en aide à celui qui n'a plus le luxe de choisir ou de vouloir son propre bien, parce que ce bien ne peut venir que de son prochain, de celui qui s'approche de lui. La clé pour le comprendre se trouve ailleurs. À la fin de l'Évangile, dans le discours sur le jugement dernier, venez, vous les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, dit Jésus. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir ou de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous les déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cet appel à être pour l'autre un frère, une sœur, en humanité, résonne à nos oreilles souvent comme un reproche, quand nous avons tout pour être nous-mêmes autonomes et que nous ne parvenons pas à aider celles et ceux qui sont victimes de cette misère extrême. Pourquoi n'avons-nous pas cet élan de solidarité qui permettrait de prendre en charge celui ou celle qui ne peut plus le faire? Qu'est-ce qui nous retient tellement? Peut-être parfois par paresse, sans doute, oui, mais sans doute aussi le plus souvent parce que je crois que chacun nous avons une réelle bonne volonté en nous, mais qui est arrêtée par d'autres peurs. Il s'agit d'impuissance, par fragilité intime, par peur de ne pas avoir la force de tenir bon jusqu'au moment où la personne sera enfin debout, par tout ce qui fait que nous sommes toutes et tous humains, nous aussi, sans savoir véritablement de quelle force nous disposons. Peut-être aussi parce que si nous décidons de partir seuls dans l'aventure de la solidarité, nous risquons fort de perdre une part de cet appel du Christ qui nous dit combien c'est ensemble, dans le souci les uns des autres et socialement, que nous pourrons être plus forts et davantage capables de nous entraider. Peut-être qu'il ne faut précisément pas être seul. Peut-être qu'il ne faut pas nous mettre nous-mêmes dans une autre misère qui serait alors terrible, de nous croire tout-puissants et de prendre l'autre comme l'objet de notre propre réalisation de charité. Il ne s'agit pas d'un appel à être un héros, mais bien plutôt à faire avec nos manques, à notre mesure, la mesure de notre humanité. Gardons espoir et faisons comme nous le pouvons, là où nous sommes, avec les moyens que nous avons, financiers, pratiques, humains, ce que nous pouvons faire à nos frères et sœurs qui sont autour de nous et dans lesquels nous devons reconnaître cette humanité dont parle Jésus. Chacun et chacune, nous pouvons faire en sorte de répondre à cet appel humaniste. Amen.